votre rendez
vous
avec
les élections
municipales
à
la
tribu.
Bienvenue dans la tribu. Les 15 et 22 mars prochains vont se dérouler les élections municipales. Nous vous proposons de partir à la rencontre des listes électorales sur Saint-Nazaire. Une interview réalisée par Adela, Loris et Flavie. Nous recevons la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors bonjour, donc je m'appelle Edil Belair. Je me présente, je suis candidat aux élections municipales de Saint-Nazaire avec une liste qui s'appelle Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Et je le précise, je ne suis pas un notable de la politique, je suis un ouvrier qui fait de la politique.
Comment représenter les jeunes dans vos décisions ?
Alors, dans votre question, j'ai cru comprendre que vous parliez des conseils municipaux, de la jeunesse, etc. Et j'ai envie de vous répondre sur ce sujet-là. Enfin, je pense y compris que pour les adultes, la réalité des choses, elle se passe pas vraiment dans les conseils municipaux. Et vous voyez, reproduire la même chose avec des conseils municipaux de jeunesse, je crois que c'est, pour moi en tous les cas, c'est pas le bon moyen d'appréhender la politique et en tous les cas de changer les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer les choses. Et aujourd'hui, le constat que je fais, en tous les cas celui que j'exprime, c'est que la réalité du pouvoir, elle est pas vraiment dans les conseils municipaux. Et c'est un problème. Aujourd'hui, tu vois, on vit dans une démocratie, on peut voter. Là, dans la période qui va venir, pour ceux qui ont plus de 18 ans, ils vont pouvoir aller voter aux élections municipales, donner leur avis. C'est vrai aussi pour tout un tas d'autres élections. Mais dans la réalité des choses, et il y a beaucoup de gens qui partagent ce constat, on vote, tu vois, au travers de la démocratie. Et puis les aspirations de la population, elles ne se réalisent pas. Et pourquoi ? Bah parce que moi, je pense, et c'est ce que je dénonce, je crois que la réalité du pouvoir, la réalité des choses concrètes qui sont faites dans notre société, des choses importantes, quand je parle de choses importantes, c'est par exemple, est-ce qu'on construit des logements ou pas ? Est-ce qu'on construit des hôpitaux ou pas ? Est-ce qu'on embauche plus d'adultes dans les écoles pour s'occuper des enfants ou de la jeunesse, etc. Enfin, voilà, pour les choses importantes, ben, en réalité, c'est pas le personnel politique qui décide de ça. Et ceux qui ont réellement le pouvoir dans les mains, c'est les plus riches. Moi, c'est le constat que je fais. C'est les plus grandes fortunes du pays. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir. Et moi, aujourd'hui, ma préoccupation en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier, c'est de savoir comment les gens qui sont l'immense majorité de la population, qui sont les gens d'en bas, hein, comment on peut faire pour changer ça, pour changer les choses et pour vraiment être capable de changer la situation, cette société. Voilà. Ben, moi, je crois que c'est pas dans les conseils municipaux, les conseils de jeunesse que ça se passe, mais je crois que c'est avec les mobilisations de la population, les mobilisations des travailleurs, les mobilisations de la jeunesse. Moi, je crois en ça pour changer les choses. Voilà.
Est-ce que vous pensez rajouter des espaces de convivialité pour les jeunes ?
Tu vois, je n'arrive pas dans cette élection municipale avec tout un tas de propositions concrètes, financées. Moi, je pense que c'est important. Enfin, moi, à mon époque, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil, les seuls espaces de convivialité, quand on était jeune, c'était le café. Il n'y en avait pas d'autres. Très peu. C'est pas terrible. Et aujourd'hui, bon, il y a des espaces comme le vôtre, ça a l'air pas mal, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que ça manque et il en faudrait. Mais quand on regarde bien, il manque plein de choses, des choses dont a besoin la population et la population de Selvide, il y en a besoin. Enfin, il y a besoin, par exemple, c'est vital, il y aurait besoin de plus de personnel dans les hôpitaux, aux urgences. Hein, vous avez peut-être vu ou lu ce qui s'est passé récemment dans les hôpitaux. Il y a le personnel qui a dit qu'il y avait une personne qui était décédée parce qu'elle n'avait pas été prise en charge suffisamment rapidement aux urgences. Il y a besoin de logements. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure avec vous. Mais il y a besoin de logements bon marché sur Saint-Nazaire. Et tout ça, on ne l'a pas. Donc il y a besoin d'énormément de choses aujourd'hui pour satisfaire les besoins de la population et les besoins de la jeunesse. Et tout ça, ça se finance. Et aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, par exemple pour la mairie de Saint-Nazaire, mais c'est vrai de toutes les villes dans le pays, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de faire des économies. Il a déjà fallu en faire. Et là, pour la période qui vient, l'État, qui donne en partie l'argent, qui dote les mairies d'argent pour mener ses actions et pour mener des actions qui sont utiles à toute la population, l'État a dit qu'il y aura moins d'argent. Donc concrètement, il y aura moins d'argent pour faire tout ça, pour faire les choses dont a besoin la population et la jeunesse. Et moi, je trouve ça, là où je trouve ça scandaleux, c'est que de l'argent dans notre société, il y en a énormément. Ici, par exemple, on vit dans une ville où on fabrique beaucoup de richesses. On fabrique des avions, des bateaux, même parfois des bateaux très luxueux. On fabrique des camions, bon, bref, on fabrique plein de choses. Mais toute cette richesse-là, finalement, elle ne finit pas, elle ne profite pas à l'ensemble de la population plus modeste. Elle ne profite pas à la collectivité, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux changer. Donc, mon programme, c'est pas dire... je vais ouvrir des maisons de quartier pour les jeunes, parce que je sais qu'aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires, ça veut dire faire des économies sur autre chose qui est aussi utile à la population. Moi, le programme que je défends, et je compte sur la population, les travailleurs, leur mobilisation pour l'obtenir, eh ben, il va falloir aller chercher l'argent là où il est. Et quand on regarde un petit peu, qu'on lève un petit peu la tête, alors c'est des gens qu'on ne croise pas tous les jours, mais quand on regarde ce qui se passe du côté des plus grosses fortunes du pays, par exemple, il y a une association, l'Oxfam, qui a publié les chiffres en début de l'année. C'est un observatoire sur les inégalités, l'Oxfam. Et ils nous disent que les 53 milliardaires les plus riches du pays, il y en a 145 dans le pays, les milliardaires, ils ont autant de richesses que 32 millions de gens dans le pays, les 32 millions de plus pauvres. Vous imaginez ? 53 personnes, 32 millions de personnes, autant de richesses. Et la fortune de ces gens-là, elle ne diminue pas. La fortune de ces gens-là, elle a été multipliée par 2 en 9 ans. C'est vous dire à quel point ces quelques-uns, ils ont aspiré les richesses qu'il y a dans la société, et richesses dont on aurait besoin pour répondre à tous les besoins dont on a parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure, les hôpitaux, etc., y compris faire des actions vis-à-vis de la jeunesse. Vous parlez d'endroits de convivialité qui seraient importants d'avoir pour la jeunesse, ben ça en ferait partie.
Comment penser et réaliser une ville plus sûre pour les jeunes filles ?
Alors, il y a les autres candidats. Il y a un sujet qui est très à la mode, très en vogue, sur lequel il faut faire beaucoup de démonstrations, c'est la sécurité, la sûreté. Alors, vous avez entendu parler, moi j'entends parler, est-ce qu'on arme la police ou pas ? Est-ce qu'on met de la vidéosurveillance ou pas, etc. Il y a une espèce de course en avant comme ça pour faire de plus en plus de démonstrations de force. Hein, pour montrer que l'État est présent, etc., qu'on lutte contre le deal, qu'on lutte contre l'insécurité dans les rues. Et c'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité. Mais moi, je vais pas dans ce sens-là. Je vais pas parce que je crois qu'aujourd'hui, ce problème d'insécurité, ben, je l'en parle de manière un peu plus générale que simplement l'insécurité que peuvent ressentir ou subir des jeunes femmes. Mais moi, mon problème, c'est toute la violence qui existe dans cette société. Et on vit dans une société qui est même basée sur des rapports de violence. Aujourd'hui, le travail, déjà rien que dans le travail, il y a de la violence. Les rapports de travail, pour beaucoup, c'est des rapports d'exploitation. Entre je suis puissant, hein, je possède des capitaux, et je peux faire travailler des gens pour mon profit. Déjà, ça, c'est violent. Et on vit dans une société où ça existe d'une manière généralisée. Et notre société, aujourd'hui, elle est basée sur le fait que les plus puissants peuvent imposer leur volonté, la contrainte. Alors, ici, dans un pays riche comme le nôtre, c'est un peu encadré avec le code du travail, quand il est respecté. Là où je travaille, je peux vous dire que bien souvent, le code du travail n'est pas respecté. Mais il y a des pays, il y a des endroits où c'est bien pire, hein, où là, la violence, elle est concrète, elle est physique, hein, il y a des endroits où l'esclavage existe encore, où les rapports de violence au travail ils sont très forts. Et c'est ce même type de rapport de violence. Vous voyez, quand je dis du plus fort au plus faible, c'est y compris ce genre de rapports qui font que dans la société, je ne vais pas dire est toléré, mais en tous les cas existent les rapports de domination, y compris physique, entre les hommes et les femmes. Et moi, ça, je combats ça. Il y a une petite histoire, moi, une histoire là qui est un peu révélatrice de ce que je vous raconte. C'est l'histoire d'Epstein. Vous en avez entendu parler. C'est ce multimillionnaire américain, cet homme qui fréquentait tous les puissants de la planète, le président américain, un ministre, un ancien ministre français et tout un tas, qui était bien vu dans le milieu des affaires. Et ben dans ces milieux-là, en tous les cas, vous voyez, bon, vous êtes au courant, c'est quelqu'un qui a utilisé de la prostitution, qui a abusé de jeunes femmes. Enfin, c'est vraiment des comportements particulièrement révoltants. Hein. Mais n'empêche que dans notre société, le mauvais exemple, il vient d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette violence, elle est l'exploitation, les rapports de domination, etc. C'est ce qui base les relations entre les êtres humains dans notre société. Ben moi, je veux construire une autre société parce que je pense que c'est possible. Une société où les rapports d'exploitation entre les êtres humains, ça n'existe pas. Une société où on est tous à égalité, hein, de droit, que ce soit au travail, mais y compris entre les hommes et les femmes, etc. Et que ces rapports de domination, d'exploitation, ils n'existent plus. Ça, c'est pas possible dans la société capitaliste parce qu'elle est basée là-dessus. Ben moi, justement, je suis un militant révolutionnaire et je veux que cette société-là, elle disparaisse pour donner naissance à une société où les relations entre les gens sont des relations de coopération, hein, de respect mutuel. Voilà.
Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour lutter contre le harcèlement et améliorer la santé mentale des jeunes ?
J'ai envie de répondre sur deux aspects. Vos questions, quand même, vous voyez, elles montrent, vous voyez, on parlait d'insécurité, là, ça montre quand même qu'il y a un climat qui est un peu lourd, hein, autour de vos questions, elles montrent de l'inquiétude par rapport à la société dans laquelle on est. Et je comprends tout à fait ça, ce que vous ressentez. Bon, déjà, il y a un aspect sur le problème du harcèlement, du mal-être, etc., de la jeunesse. Moi, je pense qu'il manque cruellement, par exemple, dans les écoles, il y a besoin de plus d'infirmiers, enfin, de personnel qui est capable de prendre ces problèmes-là. Enfin, quand on est dans ces difficultés-là, on a besoin d'aide, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'adultes compétents, formés. Là aussi, il y a eu un accident grave à l'hôpital avec une adolescente, si je ne me trompe pas, qui n'a pas été prise en charge comme il fallait. Et bon, lui arriver ce qui peut arriver de pire, mais faute de personnel capable, formé, présent pour s'occuper de ça. Et à la fois ça, donc là aussi, ça fait partie des moyens dont on aurait besoin impérativement pour venir en soutien et en secours des jeunes qui font face à des difficultés de cet ordre-là. Mais je voulais répondre aussi d'une autre manière sur l'image que vous renvoie la société et que je trouve extrêmement inquiétante. Parce que moi, je trouve qu'il faut avoir le moral drôlement bien accroché. Moi, je suis un habitué de... Je lis la presse tous les matins. Je suis content, moi, d'avoir des perspectives d'avenir, de vouloir changer le monde. Parce que quand on ouvre le journal le matin, il y a de quoi être inquiet. Inquiet de l'avenir, inquiet du monde actuel, inquiet de la société dans laquelle on vit et inquiet de la société dans laquelle on va vivre demain. Et moi, je pense que forcément, pour la jeunesse, c'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement angoissant. Parce que quand je lis les journaux et quand je lis, ce qu'on nous annonce, moi, je vois aucune porte qui s'ouvre sur un avenir où les choses iraient mieux. Au niveau environnemental, il n'y a rien qui va et il n'y a rien qui se règle. Au niveau socialement parlant, la situation de la population, même dans un pays riche comme le nôtre aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile. Et puis, j'ai envie de parler de la guerre, hein. Parce que aujourd'hui, moi, je constate qu'on est aujourd'hui dans une phase de préparatifs guerriers à l'échelle mondiale. Là, actuellement, les États-Unis et Israël sont en train de bombarder l'Iran, mais on voit partout. La France vient d'envoyer un porte-avions. Enfin, voilà la société, ce vers quoi elle va. Et moi, je pense que tout ça, c'est à cause de la manière dont est organisée la société. Aujourd'hui, ce qui dirige la société, cette toute petite couche de très, très riches, ils ont un rapport totalement individualiste, totalement égoïste avec toute la société. Ils la font toi. Mais le problème, c'est que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont les manettes, c'est eux qui ont le volant de toute la société. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ce que veut Trump et derrière lui les capitalistes américains, c'est l'accès aux matières premières, c'est plus avoir de concurrence, etc. Et tous, dans tous les pays, chacun procède de la même manière. Et c'est ça qui fabrique cette concurrence entre tous les États, et c'est ça qui fabrique les guerres. Moi, en tous les cas, quand j'étais jeune, ce qui me donnait le moral et de l'appétit, etc., c'était d'imaginer une société qui fonctionnerait différemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces perspectives-là, elles sont pas suffisamment présentes. Elles devraient l'être plus pour qu'y compris dans la jeunesse, il y a au moins cette porte qui s'ouvre. Cette porte, c'est-à-dire une autre société est possible. On peut la construire, c'est à notre portée, on peut l'imaginer, on peut réfléchir à ça, etc. Une société autre que celle qu'on est en train de voir se dérouler sous nos yeux. On est peut-être loin du moral, mais enfin, peut-être pas tant que ça.
On y vient, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment est-ce que vous allez rendre les logements étudiants accessibles ?
Alors j'ai été surpris du logement étudiant, parce que pour moi le problème du logement, c'est un problème plus général que pour les étudiants. Ne serait-ce que pour parler de la jeunesse, il y a aussi, c'est un problème qui est délicat pour les jeunes travailleurs, particulièrement ici, parce que tu vois, c'est une ville dans laquelle il y a pas mal d'activités. Et tu vois, moi, je connais des jeunes un peu plus âgés que vous, des jeunes qui sont au travail, mais qui doivent passer quelques semaines dans leur voiture, par exemple, quand ils arrivent ici, parce que c'est mission impossible de trouver un logement bon marché. Et en fait, le problème du logement, c'est pas un problème qui touche la jeunesse, c'est un problème qui touche les classes populaires. Un étudiant qui a de l'argent, avec des parents un peu fortunés, il n'a pas de problème de logement. Hein ? Un travailleur qui arrive ici, qui a des bons salaires, etc., il n'a pas de problème de logement. Mais aujourd'hui, le logement, c'est devenu un problème aigu pour ceux qui ont le moins d'argent, pour ceux qui ont les revenus les plus faibles, pour les étudiants dont les parents ont des revenus pas très importants. Et effectivement, et a fortiori dans une ville comme Saint-Nazaire, trouver un logement bon marché, ben c'est un sacré casse-tête. Et là encore, alors, c'est pas du ressort du maire, parce que aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez Saint-Nazaire, vous voyez, il y a des grands quartiers HLM. Saint-Nazaire a pour particularité d'avoir beaucoup de HLM. Alors, c'est lié à l'histoire de Saint-Nazaire. La ville, elle a été détruite. Elle a été reconstruite après-guerre. Et l'État y a mis des moyens. À une époque, Saint-Nazaire avait 30% de logements HLM. Donc, vous voyez les quartiers de Saint-Nazaire dans lesquels il y a une grosse concentration de population, c'est beaucoup des logements HLM bon marché. Mais ça, pour faire des économies, et depuis des décennies, parce que l'État avait d'autres priorités, et les priorités de l'État, c'était plutôt de donner des subventions aux plus riches. Je pourrais vous donner un exemple tout à l'heure. Et il a arrêté de financer des grands programmes massifs de logements dont il y avait besoin dans le pays et dont il y a besoin ici. Et donc aujourd'hui, l'État n'intervient pas pour construire des logements, pour y mettre de l'argent, etc. Donc aujourd'hui, les logements sont construits par des bailleurs privés, des gens qui font de l'argent avec le logement. Aujourd'hui, tu vois, quand on construit, qu'on loue un logement, c'est pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, la loi du marché fait que, d'autant plus quand il y a pénurie de logements, et c'est le cas à Saint-Nazaire, eh ben, les prix flambent, les prix montent, vous savez, c'est l'économie de marché. Il n'y a pas beaucoup de biens, il y a beaucoup de demandeurs, et eh ben, ça flambe. Et vous voyez, un bien comme le logement, qui est un bien élémentaire, chaque être humain devra avoir le droit de pouvoir se nourrir, se loger, avoir un toit sur sa tête, d'avoir un travail, etc., d'avoir le droit à un travail. Et ben aujourd'hui, ce droit-là, il est devenu très compliqué, parce que dans la société dans laquelle on vit, tout est affaire de marché, de marchandises, d'achat, de vente, etc. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça aussi que je milite pour transformer cette société-là, parce que ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, y compris même les gens qui les fabriquent, ces logements, qui les construisent, ils peuvent avoir des problèmes de logement. Et ça, c'est dramatique. Je vous redonne un petit exemple quand même. Je vous dis, on donne de l'argent aux riches et puis on n'en donne pas pour des besoins indispensables pour la population. Au chantier où je travaille, actuellement, on fabrique un voilier, vous l'avez peut-être vu, qui appartient au groupe Accor. C'est un groupe hôtelier et dans lequel M. Bernard Arnault, qui est la première fortune du pays, il a mis de l'argent. Ce bateau, c'est du très grand luxe. Hein. Les cabines les moins chères, elles vont se louer 6 000 € la nuit. Vous voyez le prix, 6 000 € la nuit. Eh bien, l'État, le ministre du Transport, il est venu au tout début de la construction de ce navire avec un chèque de 22 millions d'euros au prétexte que ce bateau était écologique pour le soutenir. En fait, cet argent, le chantier n'en a pas besoin. Bernard Arnault n'en a pas besoin. Mais l'État subventionne l'économie privée, subventionne les plus riches, alors que de l'autre côté, vous voyez, des logements pour les jeunes, eh bien, il n'y en a pas. Ben voilà, moi, c'est des choses que je combats, ça.
Vous en avez commencé à parler un peu tout à l'heure de l'environnement. Comment est-ce que vous allez pousser la transition écologique dans la ville ?
Ça aussi, c'est un sujet qui est à la mode, tu vois, la transition écologique dans la ville. Tu vois, donc on nous dit, on nous vend, tu vois, il faut se déplacer à vélo. C'est bien, c'est vertueux. Il faut faire du vélo, de la voiture électrique, il faut arrêter de mettre du béton partout, etc. Bon, d'accord. Mais le problème de l'écologie, c'est tout sauf un problème municipal. C'est un problème général. C'est un problème d'organisation de la société, vraiment. Tu vois, les changements climatiques, les choses importantes, les choses qui menacent même la vie sur Terre, à terme. J'espère qu'on arrivera. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Mais vous voyez, les choses qu'on commence, on en a parlé pendant longtemps. Là, aujourd'hui, ces dernières années, on a vu les effets. Tu vois, le climat qui change, la mer qui monte. Dans certains pays, les gens vont devoir quitter les endroits où ils vivaient, etc. Les crues, tout ce qu'on voit, des événements climatiques très importants qui perturbent la vie humaine. Tout ça, c'est lié justement à des activités polluantes au niveau global, au niveau général. Et ça, à ce niveau-là, ça ne change pas. Parce que là aussi, comme je le disais au début de notre entretien, toute la population sait d'où vient le problème. On sait tous aujourd'hui. Les scientifiques nous le disent. Hein, pourquoi la Terre se réchauffe, pourquoi la Terre se pollue, pourquoi... Enfin, mais aujourd'hui, ce n'est pas la population qui décide. Et par exemple, vous voyez, l'énergie électrique a le vent en poupe. Il y a l'éolien ici, on fabrique des éoliennes ici dans la ville, on fabrique des centres électriques au chantier qu'on envoie en mer, etc. Bah, toute la production électrique aujourd'hui au niveau mondial, elle ne vient pas diminuer la production des énergies carbonées, le gaz, le pétrole, etc. Elle vient s'y ajouter. Donc aujourd'hui, on fabrique des énergies un peu moins polluantes. Ça vaut le coup aussi de regarder ce qu'on fait vraiment avec l'énergie électrique, parce que il faut fabriquer des batteries, ça c'est polluant, on ne se soucie pas de la manière dont il va falloir gérer tout ça après, etc. Mais aujourd'hui, ceux qui décident de tout ça, c'est Total, c'est des groupes pétroliers comme Total, etc., qui eux ont décidé de, puisqu'il y avait toujours du pétrole à vendre, ils vont continuer à en vendre. Et puis, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il a dit « Moi, ce que je veux, c'est de l'énergie pas chère. L'énergie pas chère, c'est le pétrole et le gaz. » Donc on y va. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a d'un côté, on demande beaucoup d'efforts à la population pour polluer moins, et la population le fait. On fait attention à la maison, on chauffe moins, on fait attention aux ampoules qu'on utilise pour pas consommer trop d'électricité. Il y a plein de gens qui utilisent le vélo pour pas prendre la voiture. Et puis on fait plein de choses comme ça qu'on estime bien pour l'environnement, et c'est juste. Et puis d'un autre côté, ceux qui décident vraiment et qui ont vraiment un pouvoir sur la pollution importante, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent et personne ne les en empêche. Je pense qu'il serait largement temps de les en empêcher. Mais là-dessus, là aussi, je ne compte pas tellement sur les politiciens. Moi, je pense que c'est la population qui peut les empêcher de faire ça, avec des mobilisations importantes. Et on n'en est pas là aujourd'hui, mais je pense que c'est ça qui serait efficace.
Et peut-être pour finir, quel rôle et quelle place a la culture pour les jeunes nazériens?
C'est la question la plus compliquée. C'est pas simple.
Pourquoi ?
C'est pas simple, cette chose-là. Parce que tu sais, dans notre société, la culture, par là aussi, tu sais, il y a beaucoup d'inégalités qui se reproduisent par la culture. Parce que, malheureusement, une bonne partie de la culture, elle est transmise dans le milieu familial, je trouve. Bien plus que là où elle devrait être transmise, tu vois, à l'école, dans l'environnement. C'est fait un peu. Mais elle se transmet beaucoup par là. Moi, je regarde les jeunes, tu vois, pour moi, une bonne éducation, c'est permettre à un jeune qui le souhaite, qui le désire, de pouvoir faire du sport, une activité artistique de son choix, de la musique, de la peinture, etc., ce qu'il veut. Il n'y en a déjà pas beaucoup qui font tout ça en même temps, pas beaucoup. Et je te dis, c'est beaucoup, c'est souvent dans les milieux un peu aisés, dans des milieux déjà cultivés, qu'on transmet ça, le goût de ça, à ses enfants. Et la société arrive mal à le faire, ça, à donner le goût, l'accès. Alors, il y a à la fois l'accès, mais je crois, l'accès, on l'a un peu. Mais le goût à la culture, ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que moi, je pense que ce serait le rôle de la collectivité, de donner le goût et l'envie à la culture. Pour moi, c'est extrêmement important. Lire, moi, j'ai eu de la chance. Mes parents n'étaient pas d'un milieu aisé, mais ils lisaient beaucoup. Et ils écoutaient aussi beaucoup de musique. Et donc, ils m'ont transmis le goût de la lecture très jeune. Et je leur suis extrêmement reconnaissant de ça. La lecture, pour moi, c'est quelque chose de... Arlette Laguiller, qui a été la porte-parole de mon mouvement pendant des décennies, qui est toujours militante à plus de 80 ans aujourd'hui, elle disait « Lire, c'est la meilleure manière de s'enrichir sans exploiter personne. » La lecture, pour moi, c'est une source de richesse énorme, phénoménale. C'est le meilleur moyen de connaître des gens, des civilisations, des pays qu'on ne connaît pas, sur lesquels on n'a aucun avis. C'est une porte qui s'ouvre sur le monde, c'est vraiment une source de richesse. Mais ça, la transmission de ce goût-là, c'est pas facile de lire, c'est un obstacle... C'est un apprentissage de je parle pas simplement de l'acte technique de lire, mais d'avoir le goût de lire un livre, de rester quelques heures à tourner les pages et à réussir à se plonger dans l'histoire et puis au point de la vivre. Hein, tu vois, c'est des choses importantes. Bah ça, c'est des choses qui se transmettent et je trouve que l'école le fait pas bien, y compris parce que l'école de plus en plus se tourne vers un rôle utilitaire de fabriquer des jeunes apte à aller travailler dans la société. Et ça, moi, ce truc-là, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, l'école, ce n'est pas fait pour ça. Bien sûr, c'est fait pour te donner à un moment donné, quand tu vas travailler, tu as besoin de connaître si tu es informaticien, si tu es électricien, si tu es ingénieur. Tu as besoin de connaître des sciences et des techniques pour faire ton métier. Mais le plus important dans l'apprentissage, c'est l'apprentissage de la culture, l'apprentissage de là où on vient, de notre société, comment tout cela fonctionne. Je parle de l'histoire, c'est très, extrêmement important de savoir connaître l'histoire des civilisations passées, d'où on vient. Ce qui me rend extrêmement enthousiaste, c'est que je trouve que l'humanité, elle a accumulé une tonne de savoir, de connaissances, de compétences, aujourd'hui qui devraient être des outils de liberté et de libération. L'humanité n'a jamais compris et su faire autant de choses que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et malheureusement, toutes ces techniques-là, ces technologies-là, etc., au lieu de faire en sorte que ça serve à toute l'humanité, aux milliards d'êtres humains qu'on est, bah aujourd'hui, tu vois, moi je travaille au chantier naval et puis demain je vais fabriquer un porte-avions. Eh ben, moi, je pense que mon travail devrait être utile à autre chose que ça. Et pas simplement fabriquer des logements, des choses utiles, mais justement, partager le travail, avoir du temps disponible pour soi, pour aller voyager, pour se cultiver, pour aller au concert, pour aller au musée, voilà, pour faire tout ça. Et la société, elle a accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais elle ne nous emmène pas vers là aujourd'hui. Elle nous fabrique, nous, comme des humains aptes à aller travailler, et pourquoi pas aller travailler pour rendre service aux autres êtres humains, mais aller travailler pour fabriquer du profit, de l'argent, qui vont être accaparés par quelques-uns, par une toute petite minorité, et ça c'est extrêmement dommageable.
Eh bien merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup aux jeunes de la tribu. Merci beaucoup aux candidats et candidates d'avoir répondu à nos questions. Nous vous rappelons aussi que les 15 et 22 mars ont lieu les élections municipales de Saint-Nazaire.